Et les matins débutent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 800 000 enseignants font leur pré-rentrée aujourd'hui. Dans quel état d'esprit les profs abordent-ils cette rentrée en pleine pandémie? Dans ce journal, nous entendrons le témoignage de Juliette, enseignante en CE2 en Gironde. Elle entre en fonction aujourd'hui.
Et comment le port du masque est-il appliqué dans les écoles ailleurs en Europe?
Tour d'horizon avec l'Espagne et l'Italie notamment, avec Élise Delève dans un instant.
C'est un procès hors norme qui s'ouvre mercredi, celui des attentats de janvier 2015.
Devant la cour d'assises spéciale de Paris, les attentats avait tué 17 personnes entre la fusillade de Charlie Hebdo, la prise d'otage de l'hypercachère Porte de Vincennes et les deux policiers abattus à Paris et Montrouge. Ce sera aussi le premier procès terroriste filmé en France. Nous entendrons l'avocate des familles de deux victimes de la prise d'otage de l'hypercachère.
Et puis les trains de nuit à nouveau sur les rails.
Oui, depuis l'annonce de mi-juillet d'Emmanuel Macron, les trains de nuit devraient être à nouveau développés, mais dans quelles conditions? Reportage à suivre. Et puis la question du jour, Guillaume.
Eh bien, qui sont les chasseurs, Sophie? Pour qui vote-t-il? Quelle est leur sociologie? On posera la question à Christophe Batic, socio-anthropologue. Ça sera dans une dizaine de minutes.
Les professeurs font leur pré-rentrée aujourd'hui dans un contexte sanitaire inédit. 800 000 enseignants, tous masqués dans leurs établissements scolaires avant l'arrivée des élèves demain. Malgré le protocole sanitaire prévu par le ministère de l'Éducation nationale, les professeurs restent inquiets. Juliette est enseignante en CE2 en Gironde. Elle effectue sa toute première rentrée. Elle confie ses doutes au micro d'Hakim Kasmi.
Apprendre et transmettre, telle est la volonté de Juliette, qui a toujours voulu devenir professeure des écoles. Élève brillante, elle souhaite apporter à ses élèves ce que le système éducatif lui a donné. Pour sa première rentrée, elle sait que le défi sera double, car en plus du stress de se retrouver seule devant ses élèves dans la classe, elle va devoir aussi gérer l'inquiétude des enfants et de leurs parents liés à la crise du coronavirus. Alors pour être prête, elle se prépare depuis des semaines.
D'abord j'ai contacté l'école, j'ai aussi rencontré quelques collègues. Et donc on a eu quelques journées de formation à l'INSPE, la fac pour les professeurs des écoles, qui nous ont permis de préparer la rentrée. Donc par exemple, on a eu des cours sur l'organisation de la première journée, de la première semaine d'école, sur l'organisation spatiale de la classe, l'organisation matérielle, comment gérer la classe, voilà.
Sur le plan pédagogique, Juliette sait qu'elle va devoir s'adapter. En effet, avec les 2 mois de confinement au printemps, le niveau des élèves risque d'être hétérogène.
Dans une même classe, il peut y avoir en effet de grands écarts de niveau. Donc voilà, il va falloir s'adapter et essayer de faire avancer tout le monde. Même si c'est pas au même rythme, essayer de faire progresser tous les élèves.
Pour autant, malgré la détermination de la jeune femme, le métier de l'enseignant suscite de moins en moins de vocations. Cette année encore, des milliers de postes étaient non pourvus au concours.
Hakim Kasmi, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé un Grenelle des professeurs pour octobre prochain, annoncé hier dans le journal du dimanche, avec une enveloppe de 400 millions d'euros pour les hausses de salaire prévues, en priorité dans un premier temps pour les jeunes enseignants, hausse de 70 à 80 euros maximum par mois sur les 1300 euros mensuels des jeunes. Les enseignants français ont actuellement les salaires les plus faibles d'Europe. 12 millions d'élèves commenceront donc leur rentrée demain en France, en pleine épidémie de coronavirus. Le masque obligatoire pour les enfants est-il la solution? Certains pays d'Europe ont décidé que les plus de 6 ans le porteraient tout le temps à la rentrée pour limiter la propagation du virus. Élise Delève, la nouvelle n'a pas forcément été bien accueillie.
C'est impossible pour un enfant de garder le masque. Massimo Galli, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Sacco de Milan, est catégorique.
C'est sûr, dans un monde idéal, il faudrait que tous les enfants portent un masque à l'école, mais c'est impossible de le garder pendant 5 heures d'affilée. Même moi, je ne peux pas.
Il faut, selon le spécialiste, que les enfants portent le masque à des moments clés de la journée. À l'arrivée, à la sortie, là où il y a beaucoup de monde. Pour le gouvernement italien, au contraire, le masque tout le temps, c'est le seul moyen d'endiguer l'épidémie et de remettre les enfants à l'école. Ils n'y sont pas retournés depuis mars. 11 millions de masques vont être distribués gratuitement pour la rentrée du 14 septembre. L'Espagne a également choisi cette stratégie. Elle veut arrêter les cours à distance et demande la présence de tous les enfants à l'école à la rentrée et 1,5 mètre de distanciation entre les élèves. Des mesures qui, au lieu de rassurer, inquiètent les parents. Certains craignent que le port du masque ait un effet sur l'apprentissage, car il affecte l'interaction avec l'autre, notamment l'empathie qu'on développe lorsqu'on est petit. Le masque empêche d'échanger des émotions qui disent plus qu'un mot et qui apaisent parfois comme un sourire.
Élise Delève, aux États-Unis, on frôle ce matin le seuil des 6 millions de contaminations au coronavirus, une épidémie qui a infecté plus de 25 millions de personnes au total dans le monde, selon le décompte de l'AFP hier, à partir des données transmises par les autorités.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Le procès des attentats de janvier 2015 s'ouvre mercredi devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Il va durer 2 mois. Les attentats avaient tué 17 personnes entre la fusillade de Charlie Hebdo, la prise d'otage de l'hypercachère Porte de Vincennes et les 2 policiers abattus à Paris et Montrouge. 14 accusés sont renvoyés aux assises pour complicité, association de malfaiteurs terroristes, car les frères Kouachi et Amédi Koulibaly, les 3 terroristes, ont été tués lors de l'assaut donné par les forces de l'ordre. Ce sera aussi le premier procès terroriste filmé en France. Et c'est important aux yeux de l'avocate Laurence Seichmann. Elle représente les familles des 2 victimes de la prise d'otage de l'hypercachère.
C'est un dossier qui est particulier également parce qu'il est filmé pour l'histoire. C'est donc que la justice envoie un signal très fort à notre pays pour dire... Vous, citoyens, soyez attentifs à ce qui va être dit, à ce qu'il va se passer dans cette salle d'audience et surtout à ce qu'il va en sortir. Peut-être une leçon pour l'histoire, certainement, une leçon judiciaire, mais j'espère surtout que l'élan démocratique et républicain qu'on a eu au lendemain d'Hypercacher et Charlie Hebdo se pérennise. Et qu'on ne soit pas simplement dans des embrassades « je suis Charlie, je suis juif, je suis policier » et puis ensuite plus rien. Donc si cette nouvelle pastille dans l'histoire de France pouvait faire en sorte que les consciences s'éveillent davantage, eh bien le pari de la justice alors à ce moment-là serait réussi.
Laurence Seichmann, avocate des familles de 2 victimes de la prise d'otage de l'hypercachère, répondait à Florence Sturm, dont vous pourrez suivre le reportage de la rédaction à 7h24 sur France Culture. À Beyrouth, cela fait presque 1 mois, jour pour jour, que l'explosion a ravagé la capitale libanaise sur le port de Beyrouth. Plus de 170 morts, 6500 blessés, des milliers de bâtiments détruits et des centaines de milliers de sans-abri. Le président français Emmanuel Macron s'y était rendu dès le lendemain de l'explosion. On y reviendra demain. C'est la thèse de l'accident qui reste privilégiée aujourd'hui. Un incendie qui a déclenché l'explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium entreposé dans un hangar sans aucune protection. La négligence des autorités attise encore aujourd'hui la colère des Libanais, en particulier celle des familles et des collègues des 10 pompiers qui ont trouvé la mort et qui n'avaient aucune idée de la présence de ce stock ultra dangereux. Reportage à Beyrouth de notre correspondant Aurélien Colli.
Rami, Eli, Charbel, Sahar, Najib, dans la caserne de la Quarantina, le lieutenant Métri énumère les noms de ses 10 camarades. Leurs portraits sont partout, sur les camions, dans les bureaux ou sur d'immenses posters au-dessus de l'entrée principale. C'est très difficile, c'était comme nos enfants, nos frères ont passé plus de temps ensemble ici que dans nos familles, explique le sapeur-pompier en brossant le portrait de ses collègues. Moi je veux y aller, non, c'est moi. Ils se chamaillaient en permanence pour aller au feu, confie le gradé, avant de décrire une équipe de passionnés, de courageux. 3 étaient de la même famille, 2 autres étaient copains d'enfance. Il y avait aussi Sahar, la seule femme, le sourire de la caserne pour le lieutenant Métri. Une caserne qui est aujourd'hui encore profondément endeuillée et qui s'interroge aussi. Le lieutenant Mur avait formé la plupart de ses pompiers.
Ils sont partis sans avoir des bonnes informations pour savoir ce qu'il y a dedans les dépôts.
Les familles des pompiers décédés, elles, n'ont pas du tout la même retenue. Ma tristesse ne s'effacera jamais et je suis en colère. Je veux savoir qui a tué mon frère et les autres, lance David, qui passe régulièrement à la caserne pour se remémorer son cadet. Tous les responsables politiques ou administratifs savaient ce qu'il y avait sur le port. Ils les ont envoyés à la mort. Ils les appellent martyrs, mais ils les ont tués, estime Rita, la tante d'un autre pompier, qui réclame encore une enquête internationale pour connaître la vérité, les responsabilités et surtout pour qu'ils reposent en paix.
Aurélien Colli à Beyrouth pour France Culture. Que dit la presse du retour d'Emmanuel Macron au Liban demain? Camille Magnard y reviendra dans sa revue de presse internationale à 7h35 sur France Culture. En France, les trains de nuit, condamnés à disparaître il y a quelques mois, vont finalement être rétablis. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État mi-juillet dans le cadre de la politique de transition écologique. Alors qu'ils ne fonctionnaient que les week-ends d'été, les trains de la ligne Paris-Rodez roulent désormais tous les jours à partir d'aujourd'hui. Mais ce retour au premier plan nécessite entre autres des moyens financiers, Sarah Ders.
Il y a 20 ans, les trains de nuit desservaient 550 gares en France. Aujourd'hui, les deux seules lignes sont très concurrencées par les vols low cost et l'arrivée des cars. Ce que regrette Nicolas Forien du collectif Oui au train de nuit qui liste ses avantages.
Le train de nuit, c'est très pratique pour couvrir de grandes distances pendant son sommeil. C'est surtout bien plus écologique que la voiture et que l'avion. Ça permet de rendre le train attractif face à l'avion sur des grandes distances. Et c'est aussi vraiment pratique pour l'aménagement du territoire, parce que ça permet de mieux relier les régions entre elles, et pas uniquement vers Paris.
Mais l'inconnu réside dans le financement de la relance du train de nuit. Qui va supporter les centaines de millions d'euros d'investissements nécessaires? L'actuel réseau périclite, dénonce le président de la FNOT, la Fédération d'usagers des transports, Bruno Gazot.
Macron n'a pas répondu aux questions qui se posent pour la relance effective du train de nuit. C'est-à-dire avec quelle voiture on le fait, sur quel sillon et avec quel modèle économique. Alors nous pensons que l'Europe est un interlocuteur tout à fait intéressant et que c'est par l'Europe que le train de nuit peut revenir. Pour être intéressant, le train de nuit doit faire quand même des distances assez longues. Et des distances de 800 à 1000 km, il en reste assez peu en France, mais il y en a quand même plusieurs de façon assez significative en Europe, qui relient les capitales et qui seront propices au développement du train de nuit.
La France est donc en retard comparée à ses voisins européens comme la Suède, la Suisse ou encore les Pays-Bas. Le sort réservé aux trains de nuit devrait être détaillé lors de l'annonce du plan de relance économique ce jeudi.
Alors qu'on apprend ce matin qu'une dizaine de TGV est bloquée entre Dax et Bordeaux depuis hier soir en raison d'une série de pannes liées à l'alimentation électrique. Des milliers de voyageurs sont concernés, certains ne sont pas arrivés à destination encore. La SNCF prévoyant un retour à la normale demain à midi. Un nouveau défaut d'alimentation électrique majeur vient de se produire entre Dax et Bordeaux, nécessitant un diagnostic puis des réparations conséquentes, précise la compagnie sur Twitter. La météo, de la pluie sur l'est du pays ce matin, sur le quart nord-est, la Bourgogne-Franche-Comté et le nord de l'Auvergne. Alternance de nuages et d'éclaircies sur la majorité du territoire. Du soleil en revanche au bord de la Méditerranée, du soleil qui arrive grâce à un mistral, une tramontale qui souffle jusqu'à 70 km/h en rafale. Des orages sur la Côte d'Azur cet après-midi. Les températures ce matin sont comprises entre 10 et 21 degrés.